Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'œuvre de Stefan Zweig, toujours tragique. Les personnages se rencontrent, ne sont pas à ce moment-là dans le même état d'âme et d'esprit, et c'est le gâchis et les malentendus et les chagrins. Au cinéma, à la télévision, bref, dans les adaptations pour le petit et le grand écran de Stefan Zweig, il faut être fidèle, sans être trop fidèle. Et en fait, il ne faut pas se poser la question. Parfois même, souvent, les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs changent la fin de l'histoire, parfois pour servir l'auteur. Max Ophüls, Édouard Molinaro, Roberto Rossellini, Étienne Perrier ont servi Stefan Zweig. Mardi du cinéma, les écrans de Stefan Zweig, première diffusion sur France Culture le 26 octobre 1993.
Les écrans de Stefan Zweig, une émission proposée par Dominique Rousset. C'est un fait, l'œuvre de Stefan Zweig, écrivain autrichien, né à Vienne en 1881, mort en exil au Brésil en 1942, européen passionné, esthète délicat, observateur attentif et prolixe des passions humaines, séduit et inspire le 7e art. Dès les années 30 et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs metteurs en scène se sont essayés, avec ses meilleures nouvelles, au difficile exercice de l'adaptation et de la transposition à l'écran. Mais certains livres, certains auteurs sont hospitaliers, écrit Jean Oranche, le scénariste, dans ses mémoires. Ils vous reçoivent bien et acceptent vos cadeaux. Car je crois que c'est une preuve d'amour pour un livre que d'y ajouter des choses qui vous appartiennent. Ce n'est pas pour le renforcer, c'est parce qu'on s'y sent bien, que l'auteur vous est devenu proche, intime. On n'est plus à l'hôtel ou dans un meublé, on se sent invité par quelqu'un chez lui et on n'a qu'une envie, lui faire plaisir. La peur, écrite en 1913, est adaptée au moins 4 fois dans différents pays, en 1928, 1934, 1954 et encore en 1992. Amok, publié en 1922, est tourné dès 1927 en URSS par Marjanov, en 1934 en France par Fedor Osep et bientôt sortira en 1993. D'autres textes encore, La lettre d'une inconnue, La confusion des sentiments, 24 heures de la vie d'une femme, La ruelle au clair de lune, La pitié dangereuse. Le charme particulier de Stefan Zweig incite même certains metteurs en scène à y revenir plusieurs fois dans leur carrière. Ainsi, Édouard Molinaro l'a adapté au moins 3 fois.
J'ai lu avec ravissement La pitié dangereuse, qui est une œuvre, à mon avis, très forte, essentielle. Que d'ailleurs, aujourd'hui encore, je songerais à adapter d'une manière moderne pour le cinéma. Mais ça, c'est autre chose. J'ai donc découvert ce texte. Et j'ai essayé de mon mieux de l'adapter, et ça a donné un film pour la télévision en 2 parties, avec Mathieu Carrière, qui jouait le jeune officier de cavalerie autrichien, qui était tombé sous les griffes de la pitié de Marie-Hélène Breillat, qui jouait le rôle principal. Donc ça a été ma première tentative. Je ne sais pas ce qu'elle a donné sur le plan du succès de l'entreprise, mais toujours est-il qu'on m'a redemandé par la suite de me repencher sur Zweig, et on m'a proposé tout un choix de textes, et parmi ceux-ci, il y a 2 qui ont retenu mon intérêt. Le premier était L'ivresse de la métamorphose, qui est un roman de Zweig qui est inachevé, et auquel j'ai trouvé intéressant d'essayer de rentrer dans la pensée de l'auteur et de lui trouver une fin qui soit cohérente avec ce qu'il avait déjà écrit. Ça a donné l'objet d'un film aussi pour la télévision en 1987, je crois, avec Evelyn Bouix. Et tout de suite après, un autre texte de Zweig, qui est une nouvelle, celle-là très courte, qui s'appelait « La ruelle au clair de lune », et que j'ai porté à l'écran avec Michel Piccoli, Marthe Keller et Nils Arestre.
Der Mann in Schwarz hat still und heimlich ihre Leidenschaft geweckt. Hat sie das Glück entdeckt?
Bonsoir.
Bonsoir.
Mais entrez. Vous n'allez pas rester planté là, non?
Oui, je vous ai entendu. Vous êtes allemande?
J'étais allemande.
Sie habe eine schöne Stimme.
Qu'est-ce que je vous sers? Très bien française. D'ailleurs, ici, on parle français. Voilà.
On parle français, on chante allemand.
Écoutez, on va pas passer la soirée là-dessus, non? Mais on a sûrement mieux à faire que parler du pays. Non?
Et vous vous appelez comment?
Moi, je préfère qu'on m'appelle Nelly. Ça fait chic. C'est plutôt pas mal. Généralement, les types comme toi, s'ils viennent ici, c'est qu'ils cherchent quelque chose de spécial. Sinon, pourquoi ils viendraient dans ce trou de rat?
Pour écouter une chanson.
La chanson. La chanson, tu parles. La chanson, oui. Le sexe, oui, il n'y a que ça.
Bon, c'est intéressant d'adapter une nouvelle et d'en faire, de tirer d'un texte court de 30-35 pages la matière pour un film de cinéma d'une heure et demie, parce que vous êtes obligé d'essayer de rentrer complètement dans la pensée de l'auteur et de la prolonger en la structurant. Souvent, il n'y a pas de vraie structure dramatique dans une nouvelle, c'est à vous de l'inventer. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dans La Ruelle au clair de lune. Mais j'ai essayé avec d'autres auteurs, comme Schnitzler dans le Baron de l'Eisenberg, que j'ai tourné avec Piccoli aussi, et plus récemment Balzac avec La femme abandonnée, que j'ai tourné récemment. C'était le même problème, c'était des textes de 35-40 pages qu'il s'agissait d'amener à la longueur normale d'un spectacle cinématographique.
Mais c'est comme ça que tu me remercies.
Faut que je m'en aille. Écoute, je vais être en retard. Tu veux bien?
Paye, c'est ça.
Je te dis, je vais être en retard à mon cours.
C'est moi qui me libère et c'est toi qui es pressé.
Mais tu savais très bien.
Mais je m'en fous de tes cours. Être ma femme, ça ne te suffit pas.
Réponds!
Tu m'as épousé pour achever tes études?
Je t'interdis de dire ça.
Oh, mais tu n'as rien à m'interdire. Qui les paye, ces études? Tu oublies? Pour un petit repas pressé, c'est vraiment trop cher. Il y a un supplément à ton plat?
S'il vous plaît. Attention.
Je crois qu'il y a une erreur. Il y a un supplément. C'est quoi le supplément?
C'est parce que madame a changé de garniture.
Ah!
Je ne savais pas que ça entraînait un supplément.
Oui, tu vois. Oh, j'ai reçu une facture ce matin. Une robe.
Étienne Perrier, vous avez tourné en 1979 La confusion des sentiments. C'est une adaptation, je crois, assez fidèle au texte. Mais peut-on d'ailleurs parler d'une adaptation fidèle lorsque le réalisateur retravaille sur un scénario? Et qu'avez-vous apporté au texte lui-même?
Il faut être fidèle sans être fidèle. Et je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question. Parce que, je vais vous dire, quand on entame une adaptation, que ce soit d'un petit roman policier sans importance littéraire ou d'un très grand roman d'un grand écrivain, comme dans le cas de La Confusion des sentiments, malgré tout, on s'embarque sur un film. Notre but à nous, ça n'est pas d'être une sorte de transposition musée d'un roman, le roman est là. Donc, on s'occupe davantage de notre film que de l'œuvre originale. Ça va vous choquer que je vous dise ça. Mais finalement, il faut que ce film soit agréable à regarder, qu'il émeuve comme le livre. Bien sûr, on cherche les mêmes émotions, mais pas par les mêmes moyens.
Comment avez-vous travaillé précisément ? Est-ce que vous avez gardé le texte près de vous pendant la rédaction du scénario ou bien avez-vous refermé le livre après l'avoir longuement lu ?
Au départ, on fait une construction. Donc, on s'occupe de l'atmosphère et de l'histoire. L'histoire qu'on raconte et par quel moyen, par quel bout on va la prendre. Alors très vite, quand on fait une adaptation, on cherche des étapes majeures. C'est-à-dire que on décide si on commence au même endroit que le livre. Parce que parfois, il y a des choses dans le livre qu'on peut décider, qui sont au début, et qu'on peut décider d'inclure petit à petit dans les scènes, ou bien on peut décider de suivre, grosso modo, la construction du livre. C'est ce que nous avons fait pour La Confusion des sentiments.
Ce qui n'est pas toujours facile, d'ailleurs, avec Stefan Zweig, où très souvent, il y a le confident qui reçoit l'histoire, donc l'introduction, effectivement, l'entrée dans le film ne peut pas se faire de la même manière que dans la nouvelle.
Surtout dans les romans, dans les premiers romans et dans les premières longues nouvelles qu'il écrivait, exactement comme dans Maupassant. Vous avez quelqu'un qui, des années après, se souvient de quelque chose qui lui est arrivé. Et alors, il y a une longue description. Je ne sais pas si vous avez vu 24 heures dans la vie d'une femme, qui est très fidèlement adaptée au théâtre en ce moment. Eh bien, au début, c'est un gigantesque flashback. Alors, comme on n'aime pas beaucoup, on n'aime plus beaucoup le flashback au cinéma, c'est vrai que ce roman est écrit par l'élève, qui a donc 19 ans dans l'histoire, et qui est écrit par un homme mûr. Mais ça, on a voulu l'oublier, même si on a gardé des citations de textes, simplement trois. Une au début, une au milieu et une à la fin.
Alors c'est la question que j'allais vous poser. Il y a des phrases, vous parlez tout à l'heure de l'adaptation d'un texte littéraire de qualité, ce qui est pour beaucoup le cas de Stefan Zweig, bien sûr, ou de textes, disons, plus triviaux, qui peuvent être des romans policiers avec de très bons sujets qu'on a également envie de porter.
Exactement.
À l'écran. Dans le cas d'un texte dit littéraire, donc, si on peut faire cette distinction, il y a des phrases entières de Stefan Zweig qui paraissent reprises dans votre adaptation, et pas d'ailleurs seulement dans la vôtre. C'est donc que c'est un auteur qui se prête à cela, ou est-ce que, tout de même, c'est pas le même parcours ?
Jamais dans le dialogue. D'abord, je ne sais pas pour les autres, parce que je ne les ai pas lus dans le but de faire des adaptations, mais dans La Confusion des sentiments, il n'y a pratiquement pas de dialogue. L'énorme scène sur la scène magistrale, le cours magistral qu'il donne à l'université sur Shakespeare, il n'y a pas un mot de cette conférence.
En effet, oui, l'aide se souvient
dans le
de
roman.
Sa force.
Elle a été totalement écrite par Dominique Favre, mais par contre, la scène était décrite. L'élève disait, j'étais assis sur le banc, il développait ça d'une manière bouleversante, la façon dont il parlait de Shakespeare, mais pas un mot de la conférence elle-même. Or, la conférence, donc, a été écrite.
Monsieur, si c'est pas un respect pour Shakespeare que vous restez debout, je vous en félicite, mais étant donné la cure que je m'apprête à faire subir à Hamlet qui risque de durer, vous feriez aussi bien de vous asseoir. Merci.
C'est la toute première rencontre, en fait, dans l'amphithéâtre.
Oui. Hein, il arrive dans sa petite ville de province et il assiste à un cours magistral donné par le professeur qui est joué par Michel Piccoli. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que deux jours plus tard, le même professeur dans la même université va presque être incapable d'ouvrir la bouche parce qu'il a des hauts et des bas dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle.
C'est une scène que vous avez tournée. Vous avez tourné dans l'ordre, ce film, ou est-ce que
presque,
vous avez beaucoup
presque
mélangé?
Entièrement dans l'ordre. C'est la seule fois sur 24 films que j'ai tourné. Nous avons tourné presque le film dans l'ordre parce qu'énormément de choses se passent dans l'appartement. Et ça, c'est la première scène entre Michel et Michel Piccoli, le professeur, et le jeune homme, Pierre Mallet. Et c'est la première scène que nous avons tournée.
Que fait un boxeur à la veille d'un combat?
Il suit un entraînement très sévère. Et il se surveille pour pouvoir monter sur le ring sans un atome de graisse. Il suffit qu'il ait 2 ou 3 livres de plus que son poids idéal, et les commentateurs sportifs ne manqueront pas de dire « He's fat and scant of breath ». Exactement les mots qu'a prononcé la reine. D'où la conclusion qui s'impose. À la fin de la pièce, dans la dernière scène, dans l'assaut qu'il oppose à Laërte, si Hamlet respire mal, s'il transpire, c'est pas parce qu'il a 3 ou 4 livres de trop, c'est parce que... C'est parce qu'il n'est pas dans sa forme idéale, voilà. Cette longue digression sportive, messieurs, pour en arriver à vous demander, quand vous lisez Shakespeare, dans bien peser chaque mot, chaque réplique, toujours plus riche de sens qu'on ne le soupçonne. Et si vous ne le faites pas pour moi, que ce soit pour l'amour de lui. C'est cool, c'est cool.
Seconde de cette nuit. Car là, j'ai lutté avec un être humain pour sauver sa vie. Chacun de mes nerfs sentait trop infailliblement que cet homme, déjà à demi perdu, s'attachait à la dernière planche de salut avec toute l'ardeur et la passion de quelqu'un qui est mortellement menacé. Quant à moi, je déployais toutes mes ressources, tout ce qu'il y avait en moi pour le sauver. On ne vit une heure pareille qu'une seule fois dans sa vie. Cette nuit fut tellement remplie de luttes et de paroles, de passion, de colère, de haine, de larmes, de supplications, d'ivresse, qu'elle me parut durer 1000 ans. Et que nous, ces 2 êtres humains qui chancelaient enlacés vers le fond de l'abîme, l'un portant en lui la folie de la mort, l'autre sans pressentiment, sortîmes complètement transformés de cette lutte mortelle.
Au cinéma et au théâtre, 2 lectures différentes. Au théâtre de Poche Montparnasse, Catherine Rich joue actuellement avec succès 24 heures de la vie d'une femme.
On n'aborde pas un texte littéraire de la même façon qu'une pièce. Et je crois qu'au début, je ne l'ai pas joué exactement où j'en suis maintenant, en tout cas. Parce que j'ai été, bien entendu, respectueuse des mots. Et ça, je le suis toujours. Mais comme c'était un texte en soi, je l'ai plus dit que vécu. Et j'étais trop respectueuse sûrement et un peu trop hiératique par rapport à ce texte. Parce qu'il faut énormément de temps pour le manger et pour le donner. C'est beaucoup plus long qu'un dialogue de maintenant ou même un classique où les choses sont balancées de façon à être dites. C'est un texte écrit. Ça prend donc beaucoup plus de temps pour arriver à ce qu'il soit joué. Parce que je trouve que ce texte est très cinématographique. Et que c'est vrai que ce jeune homme, chacun l'imagine. Et qu'on le voit avec ses mains, qu'on voit les situations. Je crois qu'on voit le kiosque, qu'on voit l'hôtel. Dans cette description, c'est tellement bien décrit. Et en plus des sentiments, je crois qu'on voit les lieux. Et je crois que c'est pour ça aussi... C'est à cause de son côté cinématographique que les gens écoutent aussi bien, parce qu'il y a comme un petit suspense quand même.
Thank you.
Noël Simsolo, deux grandes nouvelles de Stefan Zweig ont été adaptées par deux grands metteurs en scène. Le premier, La lettre d'un inconnu, adapté par Max Ophüls. Le deuxième, La peur, Roberto Rossellini. Ce sont deux films très différents, bien entendu. Est-ce qu'il y a une façon ou pas de les rapprocher? Est-ce qu'il vous semble que ces deux metteurs en scène étaient plus ou moins destinés à s'intéresser à Stefan Zweig?
On peut penser qu'ils étaient destinés à s'intéresser, de toute façon, à un écrivain autrichien qui lui-même s'était intéressé énormément à deux choses, qui étaient d'abord à Dostoïevski, au roman russe, disons ce qu'on a appelé le roman psychologique, qui a eu une importance tout à fait énorme à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, mais qui surtout a influencé énormément de gens. On sait que le shimpa japonais vient de là, qui est une forme de représentation que Mizoguchi utilisait. Et si chez Mizoguchi, par rapport à Rossellini, ça n'est pas un hasard. Il y avait donc tout un travail qui était de ne pas travailler en surface, mais de travailler à l'intérieur de ces données. La deuxième chose qui faisait que les récits de Zweig pouvaient intéresser ces deux cinéastes-là, c'était quand même son rapprochement avec Freud. Car n'oublions quand même pas que Zweig était un intime de Freud, et même en dehors de Freud, il s'est intéressé à des gens, à des personnes qui avaient préparé Freud à son travail sur la psychanalyse. Et en fait, il faudrait d'abord rapidement dire que auparavant, avant ces deux-là, Zweig avait déjà intéressé des cinéastes, mais ils avaient intéressé sur le côté, disons, anecdotique des propos. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand Zweig se met à écrire au début du siècle, le cinéma est déjà arrivé avec son écriture particulière, et l'opéra est en train de se renouveler complètement par rapport à Wagner. La situation en Autriche qu'il vit, une situation où les classes sociales se mélangent énormément. On n'est plus dans Murger, on a été beaucoup plus loin, et que le monde bouge beaucoup à cause de cette espèce de choc entre l'industrialisation et la volonté de garder les traditions, surtout en Autriche. Et Zweig, lui, a été un des premiers, en quelque sorte, à aller dans une autre direction que le roman russe qui le fascinait, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à la psychologie des personnages, et avec une certaine insistance sur ce qu'on pourrait appeler, si on était méchant, le sordide, ou ce qu'on pourrait appeler, disons, l'état d'âme, l'envie de l'erreur, l'angoisse, un tas de choses qui sont éminemment cinématographiques pour un grand cinéaste. Filmer un visage avec une musique, c'est plus intéressant qu'un dialogue. Et donc, en quelque sorte, il a travaillé d'une donnée, on pourrait dire que par certains côtés, il y a un côté Simenon allemand, comme ça, chez Zweig, qui a forcément marqué, même quand il n'était pas adapté, le cinéma allemand d'abord, et puis le cinéma européen. Car n'oublions quand même pas que Fritz Lang donne le jeu avec M. le Maudit, qui est un film réaliste et plutôt expressionniste, et qu'on s'intéresse donc plus à ce qu'il y a sous la peau. D'ailleurs, c'est vrai que dans certains films plus poussés vers le côté roman populaire, chez Lang, dans les premiers films de Lang, il y a ce côté exotique, il y a ce côté femme importante, même dans ses scénarios Rinderwald, il y a des choses qui peuvent recouper un petit peu. Je pense que le premier Preminger, également, quand il était en Autriche, aurait très bien pu toucher ça, même si c'était des comédies, mais par la suite, avec des films comme Laura et tout, il a bien montré que ce genre de personnage intéressé, car il ne faut pas oublier non plus, on fait une fausse digression en disant ça, c'est que une des influences de Zweig, ça a été le roman noir américain énormément, bon, dit psychologique ou noir, mais ça a été une influence énorme. Et donc, en Allemagne, on pourrait dire d'autres gens, je pense que quelqu'un comme Kottner, à ses débuts, aurait très bien pu faire ça. Le cinéma, les Allemands étaient très très imprégnés de Zweig, d'ailleurs.
Et puis Zweig était très lu partout en Europe, en France notamment.
Ah non, c'était sans dire un best-seller, c'était un érudit, c'est-à-dire qu'il y avait également une chose qui devait fasciner les cinéastes, car n'oublions pas que le cinéma, une de ses grandes données, d'abord en Allemagne, puis après dans le monde, c'était le Kostümenfilm, le film à costume. Et c'est vrai que les biographies qu'écrivait Zweig, soit Fouché, Marie-Antoinette, et tout, étaient tout à fait fascinantes. Donc il savait mettre en scène. En cas, quand on lit le Fouché, par exemple, de Zweig, on voit un film. On voit un film, on se demande pourquoi il n'y a personne qui l'a mis en film, parce que il raconte pas du tout ça d'une manière universitaire. On a l'impression qu'on voit Fouché entrer, qu'il est en train de penser quelque part. On s'imagine, on se fait son cinéma quand on lit Zweig. Et donc, il est lié. Mais pour répondre à la question de quel cinéaste aurait pu et non pas fait, je pense à Duvivier. C'est évident qu'en France, Julien Duvivier, qui s'intéresse très près, on retombe là-dessus, à Simenon, ou à Nikolsky.
Pour la noirceur, pour
Oui, la noirceur, le côté des gens qui vont jusqu'au bout d'une folie, l'idée fixe, l'obsession, un romantisme noir, pessimiste, le côté russe peut-être aussi très marqué. Je disais Simenon était marqué non par Dostoïevski, on le sait. Bon, tout ça, Dostoïevski certainement l'a marqué, mais Duvivier, c'était évident, il aurait pu. Moins Renoir, peut-être le Renoir de la fin, mais pas vraiment Renoir, c'est curieusement, c'est un peu comme Ophüls à qui on va arriver, qui n'était pas donné au départ tout à fait évident, alors que Rossellini l'est. Et puis dans les Américains, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu s'intéresser à lui. Lubitsch, par exemple, Lubitsch qu'on en fait uniquement l'heure de comédie, mais pas du tout. Il y a autre chose chez Lubitsch, il y a un côté dramatique, il n'y a qu'à penser à l'homme que j'ai tué. Bref, on se demande pourquoi, pendant 15 ans, les gens qui ont adapté Zweig, Ozep et quelques autres, ou qui sont inspirés de Zweig indirectement sans marquer scénario d'après Zweig et tout, se sont contentés de prendre l'anecdote du récit et n'ont pas compris que Zweig leur offrait un magnifique livret. Et en fait, on se dit donc la solution pour adapter, il faudrait la voix off. Il faudrait que ce soit un récit raconté à la voix off et qu'on filme dessus. Alors ça, ça paraît évident. Mais c'est pas toujours évident. C'est encore plus compliqué parce que pour arriver enfin à Ophuls, Ophuls a joué cette voix off. Mais il a pu en jouer parce qu'il a pris un sujet qui le lui permettait.
Quand vous lirez cette lettre, je serai peut-être morte. J'ai tant à dire et si peu de temps. L'enverrai-je? Je ne sais pas. Je dois trouver la force d'écrire. En écrivant, nous comprendrons peut-être que ce qui nous est arrivé avait une raison, au-delà de notre propre entendement. Si vous recevez cette lettre, vous saurez comment j'ai été à vous, quand vous ne saviez ni qui j'étais, ni même que j'existais. On est deux fois, au jour de la naissance et au début de la vie consciente. Rien n'existe dans ma mémoire avant ce jour de printemps où je vis la voiture de déménagement devant chez vous.
Le livre, c'est un écrivain qui rentre chez lui, simplement. Il trouve une espèce de paquet qui ressemble à une longue lettre. Il croit que c'est quelqu'un qui lui envoie un manuscrit. Il l'ouvre et tout le roman est fait de cette lecture jusqu'aux dernières 30 lignes où on revient au personnage. Et ce roman raconte une femme qui l'a vu emménager quand elle était petite, qui est tombée amoureuse de lui, qui a essayé absolument, disons, de le connaître. C'était impossible. Qui un jour l'a connu, il n'a pas reconnu que c'était la fille qui habitait là. Ils ont eu une aventure. Par la suite, elle essaie de le revoir, mais elle ne le revoyait pas. Et le hasard a fait qu'elle a pu enfin le revoir à nouveau, mais il l'a pris pour une prostituée, et finalement, ou pour une fille qui se promenait là, il l'a pas reconnue non plus. De cela, alors après, pour pouvoir continuer à aller vers lui et tout, elle s'est, comme elle dit, vendue à des hommes riches, c'est-à-dire se fait entretenir pour pouvoir se garder non mariée en attendant de le rencontrer encore. Elle le rencontre une dernière fois, passe enfin une nuit d'amour avec lui, un enfant de lui qu'elle ne lui dira jamais. Et en fait, toute cette histoire vient parce que cet enfant est en train de mourir, malade à l'hôpital, et l'enfant revient souvent dans le récit pour que l'enfant est mort, elle lui annonce à la fin de... Elle lui redit, et qu'elle-même, elle va mourir, et l'écrivain se retrouve ayant lu ça et se pose des questions et est malheureux.
Yves Builly, La lettre d'une inconnue, de Max Ophuls, donc adapté bien sûr de Stefan Zweig, un film pourtant... typiquement de ce metteur en scène dans lequel il a mis beaucoup de lui-même. Alors racontez-nous peut-être la genèse de ce film, comment le sujet est-il arrivé jusqu'à lui ?
Oui, eh bien, c'est le deuxième film de Max Ophuls aux États-Unis, après une traversée du désert terrible pendant la guerre. Tout part de l'acquéreur des droits de la nouvelle, qui est William Dozier, qui était en fait producteur délégué à la Universal, mais qui possédait en même temps la Rempart Productions, une maison indépendante. Il s'est adjoint le secours du producteur John Houseman, que connaissait Ophuls. Par hasard, ils s'étaient rencontrés, ils s'étaient vus au début des années 40. Ce même John Houseman a demandé à Howard Kaur, qui était un scénariste réputé de la Warner, et qui avait donc collaboré aux scénarios, aux adaptations de Casablanca ou de La vieille fille, peut-être même de La lettre avec Bette Davis. Donc, un scénariste chevronné qui lui-même a insisté pour que Ophuls fasse l'adaptation de cette nouvelle avec lui. Et donc, c'est un film d'amis, on peut dire, parce que ces quatre personnages, j'ai peut-être oublié de dire que William Dozier était le mari de John Fontaine, et je suppose qu'ils ont tous les deux lu avec enthousiasme la nouvelle, et que John Fontaine a absolument voulu incarner le personnage de Lisa. Donc ces quatre personnages ont tous les quatre participé à l'adaptation et au film lui-même. L'adaptation a été donc plus le lot de Howard Core et de Ophuls. Ils ont décidé de modifier la nouvelle, qui est une nouvelle relativement courte, puisqu'elle fait en français 60 pages, en incluant l'histoire de la lettre proprement dite dans un duel, en fait. Au départ, Stéphane, le personnage principal, celui qui est le rêve incarné de Lisa, accepte en rentrant le soir chez lui un duel pour le lendemain matin, pour quelques heures après. Et son domestique lui remet la fameuse lettre qu'il va lire tout au long de ses dernières heures avant le duel. Mais dès le départ, le personnage n'est pas très sympathique, puisqu'il annonce la couleur, il n'ira pas participer à ce duel, parce que le duel, c'est bon pour les gentilshommes, et il ne se considère pas comme un gentilhomme. Donc il y a déjà un personnage un peu veule qui n'a pas l'air d'être tellement valorisé par leurs auteurs. Donc, c'est une modification importante à la nouvelle. Et donc, ce duel-là, c'est un ressort dramatique. Il y a énormément de films hollywoodiens où il va se passer quelque chose dans la nuit d'un duel et le personnage lui-même va être modifié. C'est le cas et c'est ce qui épaissit un petit peu le personnage de Stéphane par rapport à la nouvelle. C'est un personnage qui, au lieu d'être décrit comme une sorte de sybarite congénitale dans la nouvelle, c'est-à-dire qui est plutôt quelqu'un qui ne pense qu'au plaisir et à la volupté, cette espèce de modification que lui aura apporté la lecture de la lettre va lui faire prendre conscience du ratage de sa vie, et il va partir au duel, décide de se rendre à ce duel qui risque fort apparemment de lui être fatal. Il y a beaucoup d'ailleurs de critiques qui ont parlé à ce sujet d'une castration. Cet être de plaisir va accepter la castration et c'est le symbole du duel, bien entendu.
Alors, il y a bien sûr le ressort dramatique que vous soulignez dans l'idée de ce duel qui se devait peut-être d'être apporté au film. Mais est-ce qu'il vous semble aussi y reconnaître la patte de Max Ophuls ? C'est-à-dire, est-ce que ce côté, cette dramatisation et puis le choix d'avoir fait justement de ce personnage plus qu'un seul dandy vous paraît très ophulsien ?
Écoutez, ce qui est d'abord très ophulsien, c'est le duel. Lorsqu'on regarde la filmographie d'Ophuls, on s'aperçoit qu'il y en a un dans Christine, enfin Liebelei, je ne devrais pas dire Christine, Liebelei, et il y en a un également dans Madame 2. Il se trouve que si l'on voit les trois périodes importantes de l'histoire de Lisa, on s'aperçoit que la première période, c'est l'adolescente, et c'est en fait Christine. La période principale où naît l'amour, c'est sa propre période, la période la plus importante de sa vie. Et la dernière période, en tant que femme mariée, c'est Madame 2. Au point que le personnage de son mari revêt ce que revêtra plus tard Charles Boyer, mari donc de Darieux dans Madame 2, le même costume. Et ce qui est amusant, c'est que, à cause de la censure également, si on revient sur les différences entre la nouvelle et le film, et il se trouve qu'à cause de la censure, Lisa, dans la troisième période de sa vie, n'est plus une courtisane et ne va plus de déchéance en déchéance pour pouvoir élever en tant que fille mère son enfant. Mais elle devient une femme mariée pour justement pouvoir assurer à son enfant un minimum matériel. C'est en fait l'absence de certaines notations naturalistes dans la nouvelle qu'on peut regretter de temps en temps, parce qu'il y a des pages très très dures chez Zweig sur la condition des filles mères à l'hôpital. Également, Il y a quelque chose de très cruel qui n'existe plus dans le film, c'est que ce Stéphane, ce sybarite, à la fin de la nouvelle, ne se souvient toujours pas, après avoir lu sa propre histoire, en fait, du personnage de Lisa. C'est quelque chose d'horrible, en fait. Dans le film, au contraire, il y a cette modification. Il va aller à son duel. Il va prendre conscience d'avoir été frivole et de n'avoir pas su regarder et conserver l'amour incroyable que lui portait Lisa.
Il y a d'autres modifications énormes par rapport à l'histoire dans le film, au niveau de la lettre, restant l'illustration, c'est-à-dire qu'il y a toute cette scène qui n'existe pas dans le petit roman qui est magnifique, où ils vont à la fête avec ce train où passent devant tous les paysages où ils n'iront jamais. Il y a l'histoire, disons, de situation à l'opéra un peu bizarre. Enfin, il y a un tas de choses qui rajoutent et qui font que brusquement on se demande pourquoi Ophuls a rajouté tout ça. Et on se dit, mais c'est vrai que Ophuls vient de Liebla et de Schnitzler. Il va d'ailleurs finir du côté de Schnitzler avec la ronde par la suite, puis Maupassant. Et il y a le naturalisme romantique qui est une chose qui a toujours fasciné Ophuls. Et Ophuls comprend, à mon avis, c'est une impression, comprend brusquement que le cinéma lui permet à lui de se raconter son histoire de Zweig selon sa propre dynamique, sa propre pensée. Il est enfin musicien parce qu'il déteste la littérature, il aime la musique, la musique ça compte beaucoup. Ce qui lui permet de faire le plan qui sera dans tous les films de Ophuls, c'est qu'elle prend un truc de Wagner, elle le repose et elle va chercher Mozart, et non pas Wagner, bon, dans la bibliothèque musicale. Ça lui permet également de pouvoir jouer sur quelque chose où on est plus proche du cinéaste. Le cinéaste est plus un musicien qu'un écrivain, donc il y a quelque chose d'un peu qui le concerne. Ça lui permet également de jouer sur l'effet cinématographique lié à la musique, c'est-à-dire que la musique va être aussi importante que la voix off sur le sentiment des personnages, et peu à peu, il se raconte de manière romantique un texte d'un naturalisme total qu'a écrit Zweig.
Now I see you as a little girl.
You too?
Avec mon père, nous voyagions beaucoup. C'était merveilleux.
I didn't know you traveled so much.
Perhaps we've been to some. Nous connaissons peut-être les mêmes endroits. Non, je ne crois pas.
Where did you go?
Où êtes-vous allé? Il y a longtemps. Rio de Janeiro. Comme c'est beau. Jardin botanique, l'avenue des palmiers, le pain de sucre, le port, les poissons volants. Nous sommes à Venise. Nous y sommes. Où voulez-vous aller? En France, en Angleterre, en Russie, en Suisse. Je vais parler au mécanicien. Le voyage vous plaît? Beaucoup, nous allons en Suisse.
Switzerland.
Les poissons volants. Et ensuite, vous ne finissez pas le voyage? Il n'y a jamais eu de voyage. Mon père avait un ami dans une agence de voyage. Il travaillait en face, au service des eaux de la ville. Il nous proposait des prospectus. Nous en avions des tas. Le soir, il mettait son manteau de voyage. J'étais toute petite. Il disait, où allons-nous ce soir? Je disais, Veracruz, c'est un joli nom. Il disait, c'est l'été là-bas, il fait trop chaud. Vous n'y êtes jamais allé? C'est comme notre voyage au pays du soleil de minuit. Qui avait-il? Le mauvais temps. J'ai pensé à l'Inde, mais c'était la mousson. Votre père était un spécialiste du temps. Il savait quel temps il faisait, partout, sauf chez lui. Qu'est-ce que c'est? Le Matterhorn. Y êtes-vous monté? Quand on est monté, que fait-on? On redescend.
Et cette nuit-là d'amour, on peut dire que c'est c'est incroyablement ophulsien, parce qu'on a l'impression que leur griserie fait partie d'une valse continuelle et ne s'arrêtera qu'à la fin de la nuit, lorsqu'ils rentrent ensemble. Et là, pudiquement, il y a une sorte de fondu au noir pudique, puisqu'évidemment, nous sommes en plein code high, et il n'est pas question de montrer des attouchements sexuels entre eux. Mais malgré tout, pour l'époque, la nouvelle n'est pas trahie. On comprend très bien qu'ils vont avoir des rapports charnels, et malgré le fondu, donc, qui est là, évidemment, pour finir le plan pudique.
Oui, parce que cette nuit merveilleuse qu'ils passent ensemble et que Lisa a tant attendue, tous ces instants magnifiques qu'il lui offre et où on les sent tous les deux si heureux, on est entraînés, nous aussi, dans la ronde. Et le spectateur, comme Lisa, croit que c'est une histoire qui va forcément durer et que c'est un amour qui est en train de naître.
Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est la ronde, c'est la pièce de Schindler, c'est le film d'Ophule, c'est la ronde de l'amour, la griserie viennoise, enfin, on est en plein dans le monde d'Ophule, c'est la ronde désenchantée, puisque à la fin de la ronde, tout recommence et rien ne s'arrête réellement, et il n'y a pas de regard sur soi-même.
Please,
s'il vous plaît.
Please talk about yourself.
S'il vous plaît, parlez de vous.
I believe you really want to
vous le voulez
about...
vraiment?
Why?
Pourquoi?
Oh, never mind, why.
Peu importe.
The truth is,
en vérité, tout a été facile.
Time of it. People accepted my music.
On m'a très vite accepté.
Perhaps too quickly.
Trop vite, peut-être.
Sometimes it's easier.
Il est plus facile de plaire aux autres qu'à soi-même.
What are you going to say?
Qu'alliez-vous dire?
You know you don't talk very much.
Vous ne parlez pas beaucoup.
Well, I
can't say it very well, c'est difficile à dire.
Sometimes,
en vous attendant, j'ai eu l'impression... que vous n'avez pas vraiment trouvé ce que vous cherchez. Depuis quand vous cachez-vous dans mon piano? Ne dites rien. Disons que vous êtes une fée. Qui peut devenir toute petite. C'est utile d'avoir une fée pour amie. Qui sait?
Vous
pourriez m'aider un jour, peut-être.
Il y a donc aussi de la gravité chez Max Ophüls dans le choix qu'il a fait d'adapter La lettre d'une inconnue. Mais si on revient au personnage de cette femme, en effet, dans la dernière partie de sa vie, donc, elle devient une femme respectée. Non seulement elle est une femme mariée, mais en plus bien mariée. Il y a des nuits à l'opéra, il y a des réceptions, elle est extrêmement élégante. Son petit garçon est très, très entouré d'affection par son mari. Et ce mari-là, lorsqu'il sait qu'elle veut repartir vers cet homme qu'elle a toujours aimé et qui comprend qu'il risque de la perdre, la menace même, de le perdre lui pour toujours si elle y va. Donc tout ceci est quand même, il y a beaucoup d'apports là de la part d'Ophüls. Alors là encore, comment les expliquez-vous, toutes ces trouvailles?
Moi je pense que, en fait, Ophüls n'a pas voulu faire un film, ce qu'on appelait très péjorativement, un film de femmes, dans la lignée des Backstreet, des Stella Dallas, des Old Men, dont on a cité l'adaptateur. Il s'est trouvé qu'il a voulu épaissir les rôles masculins, et aussi bien pour Stéphane que pour le mari de Lisa, et il leur a donné une consistance, et en même temps, ce sont des... le personnage du mari est en fait une sorte de confesseur, mais en même temps, il la menace, bien sûr, dans cette très belle scène de la calèche, au retour de l'opéra, et en même temps, elle ne suivra pas ses adjonctions, et elle ne pourra pas s'empêcher de retourner pour la dernière fois voir Stéphane. Et là, alors, il se passe quelque chose de très important par rapport à la nouvelle, c'est qu'elle n'accepte plus de ne plus être reconnue. Alors que dans la nouvelle, elle passe une dernière nuit d'amour avec Stéphane, là, elle ne supporte plus. Et c'est là où on peut se dire, au fond, ça aurait été plus simple qu'elle lui dise « Mais regarde-moi, regarde-toi, tu es un infirme de la mémoire ». Et en fait, j'ai un enfant, il est de toi, et elle aurait pu le sauver. Et en fait, au fond, elle le tue. C'est une façon de détourner un petit peu la nouvelle, et Stéphane devient humain. En fait, lui, il tombe dans le vide. C'est un Lola Montes. Il a considéré sa vie, il a regardé cette femme, il n'a pas su découvrir l'amour qu'il aurait pu lui donner, et il tombe. D'ailleurs, dans des tas de films d'Ophüls, les personnages tombent dans le vide. Il y a le modèle du plaisir, il y a Lola Montes qui, à la fin du film, tombe après un exercice acrobatique très compliqué. Il y a également la dialectique de l'escalier qui est très très présente dans ce film, puisqu'il y a énormément de plans qui se passent dramatiquement sur un escalier. À la première époque, lorsque Lisa est encore adolescente, elle voit, alors qu'elle est prête à tout et à se donner à Stéphane, elle voit monter Stéphane du haut d'une cachette avec une femme. Et il y aura exactement le même plan lorsque elle décidera de passer une nuit merveilleuse avec lui et de monter chez lui. Et là, par contre, on voit exactement le même plan, c'est-à-dire du fond de cette même cachette où elle était adolescente, on les voit monter et par contre, la caméra pénètre dans l'appartement. Ça, c'est très important. Et on pénètre. Chez Ophuls, parfois, on ne pénètre pas. On reste derrière la façade, la maison Tellier, par exemple, où on présente les prostituées derrière la façade, ou alors on pénètre. Alors, il y a cette notion d'escalier, de palier et de façade.
Avec juste une petite scène pour qu'on les situe, qu'on les ait en tête visuellement, très jolie, où lorsqu'il la ramène chez elle, donc après, enfin, lorsqu'elle va le trouver après cette fameuse soirée à l'opéra, elle découvre que le piano est là, bien sûr, dans le salon, et puis au moment de l'ouvrir, elle s'aperçoit qu'il est fermé à clé. Et Stéphane, avec beaucoup de désinvolture, lui dit « Oui, c'est vrai, la clé n'est pas là, mais je peux la demander à mon serviteur. » Elle est évidemment très surprise.
Oui, elle comprend que tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait séduit, c'est-à-dire ses qualités artistiques de virtuose, puisque c'était un jeune virtuose, se sont amoindries et il n'est plus rien d'autre qu'un homme à femme. Et d'ailleurs, là où on pense qu'il va pouvoir y avoir encore une possibilité pour eux de s'aimer, il noie en fait cette scène dans une espèce de délire de frivolité qui fait que pour la dernière fois, elle comprend. Elle le regarde et elle s'en va, alors que justement dans la nouvelle, comme je disais tout à l'heure, elle reste. Et ça, c'est très très fort, je crois.
Very lovely. Beautiful dress.
Thank you.
I knew last night. Didn't you?
Je ne sais même pas offert à boire.
Stéphane.
Yes? Stéphane.
I came here,
je suis venue ici pour vous dire. Il s'agit de vous? De nous deux?
No, we can't possibly be serious.
Nous ne pouvons pas être sérieux. Si tôt, sans champagne. Dans un instant. Le champagne est meilleur après minuit.
Much better.
Bien sûr. Je reviens d'Amérique. Ça a dû être un merveilleux voyage. Vous voyagez beaucoup? Vous ne me croirez pas. Mais j'ai pensé à vous toute la journée. Non, je ne vous crois pas. Si j'avais su que vous veniez, à vrai dire, je n'aurais jamais cru que ce serait si vite. Vous vous êtes si bien débrouillé. Vous êtes une femme bien étrange. Vraiment? Vous avez dit hier soir une chose à laquelle je pense encore. Qu'était-ce? Je vous le dirai dès que j'ai de la glace. Vous vous sentez seule? Très seule. J'étais venue vous parler de nous. Vous offrir toute ma vie. Mais vous m'aviez oublié.
Il y a une force chez Ophuls de l'adaptation même. C'est peut-être la clé de qu'est-ce que l'adaptation au cinéma. Puisqu'il y a la voix off de la fille qui est le récit écrit par Zweig, on l'entend le dire. Et on voit des images qui ne sont pas celles que peut se rappeler forcément le personnage du musicien, de l'écrivain dans la nouvelle, du musicien dans le film, mais celles que peut-être l'imaginaire a besoin de se donner à la lecture d'un texte. Et il y a un plan qui est capital dans le film. C'est que tout le temps où on lit la nouvelle, nous, On sait qu'elle a été petite fille, mais on sait que c'est une femme qui écrit, et c'est comme une femme que c'est écrit. Le film nous permet de voir un comportement d'enfant, et le retour de comportement d'enfant, c'est le plan peut-être le plus explicite de tout le film, c'est quand on lui descend la pomme d'amour, qu'elle la prend, qu'elle la croque, et qu'il lui dit « You look like a child », et qu'elle baisse les yeux, et ça rejoint le moment où sa copine dit « Tu as rougi » en le regardant dans une scène précédente. Bon, et encore une fois, c'est une descente, c'est une montée. C'est-à-dire que il a pris un musicien parce qu'il a compris aussi au fil que dans le style de l'écriture même, faudrait parler, comment s'écrit en allemand, Zweig est quelqu'un qui montre des montées de sentiments, des arrêts, des étapes, des chutes, des gens qui tituberaient presque dans leur tête sur la montée. Mais c'est la psychanalyse c'est vous faire avancer, monter les étages, les faire redescendre, aller à la cave, aller au grenier, tout ça et tout. Et alors là, on découvre brusquement que le style de Ophuls, qui a toujours été les montées, les descentes, lui, il représente une classe sociale et la beauté, il est à l'étage au-dessus d'où elle est, elle essaie de monter vers lui, elle ne veut pas, elle redescend, elle remonte, et tout le film est fait sur un jeu d'escalier, en fait, rejoint complètement le type d'écriture de Zweig, et ça, à l'époque, on ne veut pas le voir, parce qu'on ne veut pas accepter, la critique de l'époque dit font refuse et ne parle pas de Zweig, pas accepter que, comme tous les grands cinéastes de la Mitteleuropa, qui est Ophuls, la psychanalyse est forcément inscrite dans leur travail.
À ce moment, je fus saisie comme d'un brusque emportement. Je me levais, je te regardais longtemps, fermement. Puis je dis, l'homme que j'aimais est lui aussi toujours en voyage. Puis je te regardais droit dans la prunelle. Maintenant, maintenant il va me reconnaître, me disais-je, tremblante, étendue de tout mon être. Mais tu ne répondis que par un sourire, et tu déclaras pour me consoler, oui, mais on revient. Oui, répliquai-je, on revient, mais on a oublié. Il devait y avoir quelque chose d'étrange, quelque chose de passionné dans la façon dont je te dis cela, car tu te levas aussi et tu me regardas avec étonnement et beaucoup de tendresse. Tu me pris par les épaules. Ce qui est bon ne peut s'oublier, je ne t'oublierai pas. En même temps, ton regard plongeait jusqu'au fond de moi-même, semblant vouloir prendre l'empreinte de mon image. Et comme je le sentais pénétrer, cherchant, fouillant, aspirant tout mon être, à ce moment-là, je crus que le charme qui t'empêchait de voir était rompu. Il va me reconnaître. Il va me reconnaître. Mon âme entière tremblait à cette pensée. Mais tu ne me reconnus pas.
Étienne Perrier, vous avez choisi de conclure La confusion des sentiments, qui, je le rappelle, reste très, très fidèle au déroulement de cette histoire. D'une manière différente de celle qu'avait voulu Stefan Zweig.
C'est-à-dire
vous allez nous dire d'abord comment, et aussi, est-ce qu'il vous a semblé que parce que vous le portiez à l'écran, il était nécessaire de modifier la fin et que peut-être comme ça vous serviez mieux l'auteur ?
Eh bien non, je ne pense pas. C'est strictement un point de vue personnel. Dans le roman, il y a toute une partie très importante pendant laquelle le professeur qui avait perdu le talent d'auteur le retrouve grâce à cet amour pour ce jeune homme et il dicte un livre qui va être le dernier livre de... Depuis 15 ans, il n'a rien écrit et tout à coup, par l'amour, il trouve le courage de se lancer dans une œuvre magistrale sur Shakespeare. Et dans le roman, ce livre n'est jamais achevé. Et j'ai trouvé, moi personnellement, que c'était la seule chose que je trouvais vraiment trop triste, si vous voulez, que cet amour n'est même pas donné, n'est même pas servi à la création d'une œuvre littéraire. Je trouvais ça dommage que le livre soit abandonné en cours de route et que cet amour, évidemment, ne trouvera pas son expression physique et simplement laissera une forte impression sur le jeune homme. Mais je voulais que ce livre fût écrit, et sinon je le trouvais trop triste. Et ça ne change strictement rien à la construction, puisque dans le roman, il célèbre la première moitié du livre, et moi tout simplement, avec Dominique Fabre, on a décidé que ça serait la fin du livre.
C'est Michel Piccoli qui joue le rôle du professeur, et je crois qu'il y met tout ce qu'il faut d'ambiguïté, de mystère et de talent, bien sûr, pour exprimer la confusion des sentiments. C'est un acteur auquel vous avez tout de suite pensé parce qu'il vous semblait justement très près de Stefan Zweig et
Non, j'avais
son
travaillé,
introspection
j'avais
comme ça
film,
de l'âme humaine.
J'avais fait un film policier avec Michel, et donc je le savais sans avoir fait le film avec lui. Mais je savais que c'était un acteur auquel on peut demander tout, parce que c'est un acteur tout à fait extraordinaire. Et Michel, simplement, avant le premier tour de Manivelle, le premier jour, il m'a dit, ce professeur, est-ce que je le joue même un tant soit peu ambigu, homosexuel? J'ai dit non, surtout pas. Surtout pas. Mais tu joues les scènes. Et l'ambiguïté, elle est dans les scènes. Elle
absolument.
N'est pas...
À aucun moment, il ne se donne
non,
les allures d'homosexuel.
Il m'a dit, bon, très bien. Mais si vous voulez, sur ce chapitre-là, ça a été une petite phrase et une petite réponse. Et le message était passé pour tout le film.
Oui, oui, c'est bien ce que je pensais. Ma chambre est située juste au-dessus de votre bureau.
Oui, oui, oui. Et le soir, quand le bruit de la rue a cessé, que tout est calme, je vous entends comme si vous étiez là dans la pièce.
Je vous dérange?
Non, non, pas du tout, au contraire. Mais si vous marchez, je sais toujours exactement où vous êtes. Et presque tout ce que vous faites. C'est là que vous travaillez, non? Là, il y a le lit. Et dans le coin, c'est la table de toilette où vous vous lavez. En lignant dans le plancher. C'est exact?
Oui. Enfin, dans un table grand comme ça, c'est difficile de faire autrement.
Ah. Là, il y a le... C'est la liste des livres au programme que vous m'avez demandé. Il y en a un bon nombre que vous avez sûrement déjà. Ouais, c'est à la suite d'un pari que vous vous êtes laissé pousser la moustache?
Non. Pourquoi? Non,
mais je sais pas. Je pensais que c'était la seule explication possible.
Parce que ça vous plaît pas?
Bon, enfin, ce que j'en pense ou non, c'est pas ça qui vous décidera à la couper. Quoi? Faites pas cette tête-là. Quoi? Je vous taquine. Très bien, cette moustache. Vous avez projeté de faire quelque chose demain?
Non.
Je ne bougerai pas de la journée. Si le cœur vous en dit, descendez comme vous voulez.
En quoi, à votre avis, Edouard Molinaro, puisque vous avez adapté d'autres auteurs, et non des moindres, en quoi Stefan Zweig est-il... un auteur qui peut tenter les metteurs en scène, puisque aussi bien on l'a adapté pratiquement depuis les années 30 et jusqu'à aujourd'hui, très récemment.
Oh, je vous ferai une réponse très simple. Si on a tellement adapté Zweig et si on continue aujourd'hui à l'adapter, puisqu'il y a des films qui sortent encore sur nos écrans en ce moment, c'est que tout simplement c'est un auteur qui sait créer des situations et c'est un auteur qui s'est créé des caractères. Ce sont les caractéristiques même du scénario de cinéma ou de télévision. Mais c'est un auteur naturel, avec une vraie structure dramatique, donc qui facilite beaucoup le travail des cinéastes.
Vous travaillez en ce moment, donc, puisque vous êtes ici au studio d'Avou pour préparer la musique. Vous venez d'adapter un texte de Henry James. Texte pas commode, d'après ce que vous nous dites. D'abord parce qu'il est, c'est un texte important, hein, je crois, un très grand nombre de pages. Alors comment avez-vous procédé? Et pour revenir à la question de la possibilité ou non d'adapter une œuvre littéraire, est-ce que là encore vous vous êtes trouvé devant un problème de construction plus compliqué peut-être que ce que l'on peut avoir avec les œuvres de Stefan Zweig?
Oui, alors James, enfin en tout cas ce roman, Ce que savait Maisie, que je viens d'essayer d'adapter pour la télévision, et alors là posait un problème très particulier, à savoir que l'écriture, à la limite, le style était presque plus important que l'action dramatique. Alors j'ai procédé autrement, j'ai travaillé sur la mémoire, c'est-à-dire que je n'ai pas relu le livre une deuxième fois. J'ai fermé le livre et j'ai fait ma structure dramatique à moi en essayant de respecter la pensée et en essayant de garder les personnages essentiels. J'ai gardé un seul principe d'adaptation qui était le principe de l'écriture. Ça s'appelle « Ce que savait Maisie » et c'est l'histoire, c'est le regard d'une petite fille et rien de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend ou de ce qu'on comprend dans le roman ne peut pas ne pas être vu par la petite fille. C'est-à-dire que c'est un roman entièrement subjectif. Et j'ai gardé cette subjectivité-là dans le film, ce qui fait que je me permets jamais d'aller dans une pièce où elle n'est pas. Elle est ou toujours soit acteur, soit témoin oculaire, soit témoin auditif. Et ça, c'est un principe absolu. Mais à part ça, j'ai absolument chamboulé son récit pour en faire une structure dramatique normale.
Quand un homme est amoureux, il n'a plus rien d'humain. J'avais pourtant bu, mais ça ne m'a pas suffi. On n'imagine pas ce qu'un homme est capable d'ingurgiter. Je le sais, je suis médecin. Je me serais saoulé à mort si j'avais pu. Car après tout, le seul droit qui nous reste, c'est de crever quand on veut, comme on veut, et sans l'aide de personne. J'ai étudié plusieurs cas d'amok. C'est une sorte de rage incontrôlée. Tu es sous l'effet conjugué de l'alcool de palme qui te brûle le sang et du climat étouffant des tropiques qui t'oppresse les nerfs. Une rage qui te force à courir sans jamais pouvoir t'arrêter. Et si le sang coule, l'odeur du sang te rend plus violent encore. Moi, ce n'était pas l'odeur du sang qui m'avait fait quitter mon dispensaire. C'était l'odeur de cette femme.
Joël Farge, vous venez de réaliser une nouvelle adaptation d'Amok. Donc le film sort très prochainement. Une nouvelle adaptation car le film a déjà été tourné il y a très longtemps. C'était en 1934, je crois. Amok ou le fou de Malaisie, c'est le sous-titre qui a été choisi par Stefan Zweig. C'est l'histoire d'un homme, un médecin, retiré donc très dans une jungle de Malaisie. Vous-même, vous avez transposé le film en Inde. L'histoire d'un homme qui se prend d'une passion folle pour une femme qui vient lui demander de l'aide. Et ensuite, c'est le récit de cette histoire, puisque d'ailleurs, c'est un récit qu'il fait à un confident, comme très souvent chez Stefan Zweig. Vous-même, vous avez choisi de transposer cette histoire à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 1939, donc juste avant le début de la guerre, alors que Stefan Zweig l'avait situé en 1912. Pourquoi cette décision, qui est quand même une très grande liberté par rapport au texte d'origine ?
Il y a deux sortes de littérature. Hein. Il y a une littérature du ressentiment, je dirais, qui gère le passé et qui ressasse le passé. Et puis, il y a un autre type de littérature qui est la littérature du pressentiment. Et Zweig, il est complètement dans ce pressentiment. C'est-à-dire, quand il écrit en 22 une histoire qu'il situe en 1912, il ne sait pas en 22 qu'il est en train d'écrire une histoire qui va lui arriver en 1942. Et ça, c'est ce qui m'a le plus frappé. Alors, quand j'ai lu le roman Amok, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une transposition des derniers jours, d'une certaine manière, de Stefan Zweig lui-même. Comme si, 20 ans auparavant, Zweig avait vu comment il allait terminer, à savoir par son propre suicide, entraînant avec lui sa femme. Et donc, j'ai donc souhaité changer l'époque du film, de l'époque de l'adaptation, justement pour bien marquer que c'était une littérature du pressentiment et qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement mystérieux, d'extrêmement énigmatique, de curieux, de chez un romancier, de prévoir à l'avance comment il allait finir. Et puis, si j'ai choisi les derniers jours, enfin 1939, juste avant que la guerre éclate un peu partout en Europe, c'est parce que ce qui m'intéressait, et ce que je crois Zweig décrit très bien, c'est qu'il y avait là, au point de vue historique, hein, un monde de l'insécurité qui était en train de basculer. Et ça, ça m'a vraiment intéressé, vraiment passionné. Et donc, c'est en cela que j'ai essayé d'introduire dans l'adaptation qui a été faite, cette espèce d'insécurité permanente que je crois on peut lire de façon très moderne aujourd'hui.
Pourquoi un tournage en Inde ?
En Inde, parce que, d'abord, mes relations personnelles. C'était mon troisième film en Inde, et mes relations personnelles avec le pays particulier, dont il faudrait des heures pour en parler bien. Et parce que, en fait, lui-même, Zweig avait situé son histoire en Malaisie, mais en fait, c'était assez confus. L'Inde n'était pas géographiquement la même qu'aujourd'hui. On disait les grandes Indes, ça incluait d'ailleurs le Pakistan, le Bangladesh et une partie de la Malaisie. Et donc, Zweig, qui avait voyagé en Inde, hein, il avait fait un voyage après une dépression nerveuse assez violente, a situé son action en Malaisie, où il n'avait pas été. Alors que j'avais vu des photos qui m'avaient beaucoup ému, de Stefan Zweig voyageant seul, comme on voyageait à l'époque, dans le sud de l'Inde. Et puis le mot amok, c'était une anecdote, mais c'était intéressant, vient exactement de l'endroit où nous avons tourné, puisqu'il vient de Cochin. C'est un mot qui vient d'une tribu qui entourait le nabab de Cochin et qui s'appelait les Amouks, et qui, un jour, pris d'ivresse et de folie furieuse, ont massacré énormément de gens. Et le mot amok, comme ça, a immigré dans énormément de langues, puisqu'on le dit en russe, en portugais, en polonais, en anglais. Il n'y a qu'en France, peut-être, que ce mot est un petit peu désuet maintenant, est un petit peu oublié.
C'est vous. Comment vous êtes arrivé à me faire parler toute la nuit?
À un moment, vous vous êtes endormi.
André et Séverine et Bernard Lecoq.
Et maintenant, vous voulez connaître la suite, hein?
Je crois la deviner, le mari n'a pas voulu signer le certificat, c'est ça?
Il a porté plainte et m'a fait rechercher. J'ai dû m'enfuir comme un voleur. Regarde-les. Comme ils sont fiers et heureux. Le monde s'écroule et ils sont prêts à danser sur les ruines, les cons.
Mais justement, il y a d'autres raisons d'aller en Europe aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas avec moi? J'ai besoin d'hommes comme vous.
Joël Farge, il y a également dans ce film, il y avait sans doute une difficulté dans le scénario, qui était le rôle du confident. C'est d'ailleurs assez classique chez Stefan Zweig. D'autres nouvelles commencent comme ça par l'arrivée du narrateur qui recueille le récit. Vous avez résolu ce problème de quelle manière?
Avec beaucoup de difficultés, parce que c'est effectivement un problème extrêmement complexe en dramaturgie, puisque à la fois je souhaitais que l'adaptation cinématographique ressemble soit le plus proche possible du livre. Donc il y avait quand même ce récit qui était extrêmement important et qui restait, si vous voulez, dans la mémoire. Lorsqu'on avait fini de lire Amok, on se souvient de ces scènes où il raconte. Donc je voulais les conserver et en même temps je voulais leur donner quelque chose d'un peu moins immobile. Je voulais leur donner une espèce de dynamique, je voulais leur donner une force comme ça, une énergie qui est toujours difficile, parce que quand deux personnes se parlent, évidemment, le spectateur, il s'ennuie un petit peu à regarder deux personnes. Donc j'ai essayé de compresser au maximum les scènes de confidence, et en même temps j'ai essayé de faire de cet auditeur en définitive de lui donner un rôle de témoin de la stratégie amoureuse du personnage principal, et aussi un rôle de témoin de ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire avec le basculement de l'Europe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il voit la guerre arriver et il voit ce qui se passe, ce qui est historiquement juste. J'ai utilisé des personnages qui ont vraiment existé pour un peu démarquer les choses. C'est que le personnage se rend compte que la guerre, non seulement il y a une guerre militaire, mais qu'en plus il y a des camps. Et donc ça m'a permis, de façon très en filigrane bien sûr, hein, c'était pas le sujet, mais de façon très indirecte, de montrer qu'il y avait des gens qui étaient alertés par ce basculement horrible qui était en train de se produire, à savoir qu'on était en train d'exterminer tout un peuple.
Et que vous me juriez que...
Je ne vous jurerai rien du tout. Docteur Steiner,
êtes-vous capable de comprendre ce que je veux dire? Je me suis affolée. Tout ce que je vous ai dit est faux. Je n'ai jamais attendu d'enfant. C'était une méprise. J'ai eu peur. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Après tout, que vous me croyez ou non, ça m'est complètement égal.
Je vous en supplie, n'allez pas risquer votre vie.
Je suis fatiguée. Tellement fatiguée.
Je n'ai que toi. Je ne pense qu'à toi. Laisse-moi t'aider. Continuellement, je sens ta présence en moi. Elle m'obsède. Je ne t'abandonnerai pas. Tu restes avec moi.
Vous me dégoûtez.
Fanny Ardant.
Moi, ce qui me frappe dans les personnages de Zweig, c'est le gâchis. Il suffisait d'un petit rouage qui aurait fonctionné d'une autre façon pour que les gens s'épargnent beaucoup de douleurs, s'épargnent beaucoup de chagrins, s'épargnent beaucoup de malentendus. Alors dans Amok, c'est le personnage du docteur Steiner et elle. C'est un gâchis parce que c'est quand même deux personnages qui étaient faits pour se rencontrer, puis parce qu'ils n'ont pas été au même moment, dans le même état d'âme, alors ils se détruisent. Bon, toujours quand on est à l'extérieur, on trouve toujours une solution aux problèmes des autres, mais c'est toujours tragique les romans de Zweig parce que, oui, le gâchis, on passe son temps à regarder ailleurs que là où il faudrait regarder. Le temps est passé, c'est trop tard.
Zweig au cinéma, je crois que vous connaissiez d'abord la première version d'Amok. Est-ce que vous l'avez lu, vous l'avez vu ou pas du tout? Non.
Je ne savais même pas qu'il y avait une adaptation déjà, mais moi j'ai vu L'être d'une inconnue, fait par Max Ophuls, qui était magnifique. J'ai vu 24 heures la vie d'une femme, ça avait été tourné par Dominique Delouche, avec Daniel Darieux. Et j'ai vu La peur, tournée par Rossellini. Moi j'ai une grande admiration pour Rossellini, mais je sais pas, je crois que de toute façon, c'est toujours une gageure de faire un film à propos d'un livre. Une gageure pour ceux qui ont lu le livre. Parce que souvent, le pari est très très fort. On déçoit toujours un lecteur. Parce que l'image, on dit toujours que c'est des mauvais livres qui font souvent des bons films. Parce que souvent, un mauvais livre ne nous a créé aucune émotion. Alors moi, par exemple, La peur, je trouvais qu'il ne fallait pas l'adapter dans les années 50 parce que les problèmes de cette femme dans les années 30, il y a eu un bond en avant. Je trouve que les femmes de Zweig sont des femmes d'avant la révolution sexuelle.
Lorsqu'Irène quitta l'appartement de son amant et descendit l'escalier, cette peur irraisonnée s'empara d'elle à nouveau, tout à coup. Une forme noire se mit soudain à tourbillonner devant ses yeux comme une toupie. Une affreuse raideur paralysa ses genoux et elle fut obligée de se retenir très vite à la rampe pour ne pas tomber brutalement en avant. Ce n'était pas la première fois qu'elle osait prendre le risque de venir ici, et cette terreur soudaine ne lui était pas du tout inconnue. Elle avait beau lutter de tout son être, chaque fois qu'elle repartait, elle succombait à ses accès de peur absurdes et ridicules. Elle resta une minute ainsi, les yeux fermés, respirant avec avidité la fraîcheur dans l'obscurité de l'escalier. Alors une porte se referma à l'un des étages supérieurs. Effrayée, elle se ressaisit et se dépêcha de descendre, en ajustant sur son visage d'un geste machinal son épaisse voilette. Maintenant se rapprochait ce moment ultime, le plus effrayant. La panique de gagner la rue en sortant d'une maison qui n'était pas la sienne. Et de se heurter peut-être à une personne connue passant par là, qui insisterait pour savoir d'où elle venait, la plongeant dans le trouble et le péril d'un mensonge. Elle baissa la tête comme un athlète qui prendrait son élan pour sauter, puis soudain résolue se précipita vers la porte cochère entrouverte.
Noël Simsolo, Roberto Rossellini a tourné La peur. On va raconter un peu d'abord les aventures malheureuses de ce film qui a subi des montages un peu tronqués, mais ce n'est pas le plus important. Pourquoi, à votre avis, Rossellini a-t-il choisi cette nouvelle de Stefan Zweig, dont je résume très brièvement l'histoire, et elle a été un petit peu modifiée par Rossellini? C'est donc l'histoire d'une femme mariée un brillant avocat, qui est une bourgeoise, qui est nantie, heureuse en famille, avec de beaux enfants et tout ce qu'il faut, qui trompe son mari et qui vit très mal cette trahison, au point qu'elle est soumise à un chantage de la part d'une femme, on ne va pas dévoiler toute l'histoire, et qu'elle le supporte si mal qu'elle en vient à l'idée du suicide parce qu'elle n'assume pas, comme on dirait aujourd'hui, en psychanalyse précisément. Alors, Roberto Rossellini s'est donc emparé de cette histoire. Est-ce qu'à votre avis, il l'a lui aussi vampirisé ?
Bon, d'abord, je crois qu'il faut aussi situer, si vous permettez, c'est que Angst se situe avant la guerre 14-18. C'est la grande bourgeoisie viennoise, avec l'avocat, et à l'époque, les trois professions importantes pour le viennois, c'est juriste, donc avocat, c'est médecin, ou c'est architecte. Bon, donc c'est le milieu le plus huppé, le plus intellectuellement huppé et tout. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il l'actualise. Au lieu de faire un film à costume, ce qu'il sait faire, il le prouvera par la suite. Je pense à des films comme Vanina Vanini ou Viva l'Italia, il le situe. Et il ne le suit pas à Berlin, il le suit à Munich. Peut-être c'est un peu plus latin, c'est la Bavière, parce que la Bavière, c'est la capitale, disons, du corps et du plaisir. Et en effet, il transforme complètement la situation sociale des personnages de la Nouvelle. Il n'en fait pas des riches bourgeois nantis importants, il en fait un médecin chercheur, pas un médecin en laboratoire, chercheur sur des moyens de sauver les vies, un bon Mabuse en quelque sorte qui s'occupe des animaux. Elle est sa collaboratrice, ils ont deux enfants, et elle est la femme qui conduit. C'est important, c'est elle qui conduit le mari, c'est la femme...
Oui, elle est toujours au volant de sa voiture.
Oui, c'est elle qui conduit la voiture, elle conduit le mari, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le couple en main.
Tu conduis au moins vite.
Hai paura, forse?
Tu as peur? Non, bien sûr. Je me sens immensément heureuse. Quelle joie de voir les enfants. Oui, c'est vrai. Une grande joie. Et si nous y restions quelques jours?
Magari potessi.
Ah, si seulement je pouvais.
Non vedo cosa te lo impedisca.
Mais rien ne t'en empêche.
Ah, vorrei tanto.
J'aimerais tant.
Vivere legato nel tuo laboratorio.
Toi, tu vis retranché dans ton labo.
Ti giuro che certe volte.
Parfois, je t'envie.
Tanto più.
Raison de plus.
Avresti diritto a un po' di riposo.
Tu aurais même droit à du repos. À moins qu'autre chose ne te retienne en ville.
Che cosa intendi dire?
Que veux-tu dire?
Niente di particolare.
Rien de particulier.
Non è giusto che lavori tanto.
Tu travailles trop.
Si potrebbe benissimo trovare.
On pourrait très bien trouver quelqu'un pour te remplacer.
Vuoi dire forse che non sono all'altezza.
Je ne suis pas à la hauteur, peut-être.
Oh no, solo.
Non, ce n'est pas cela. J'ai seulement.
Ho solo lanciato un'idea.
Seulement lancé une idée, si tu veux.
Contare
tu peux compter sur moi.
Mia collaborazione.
Beh, vedremo.
Ce qu'on peut peut-être dire, parce que c'est dès le début du film, c'est que cette femme-là, pour en quelque sorte expliquer ce qu'elle fait. C'est-à-dire prendre un amant, parle de la guerre, parle de sa grande solitude parce que son mari était absent, parle de la longue absence du mari, parle du fait qu'elle a dû, elle, se mettre au travail, reprendre l'usine, le laboratoire dans lequel il était avant elle, qu'elle a donc travaillé tout le temps où il était au camp et qu'il en est revenu en ayant beaucoup souffert. Donc il y a toute cette...
Elle se donne des excuses.
Elle se donne ces excuses-là, en tout cas.
Parce qu'elle,
qui sont très différentes de celles de la nouvelle.
Oui, parce qu'elle, elle connaît la psychanalyse, alors que le personnage de Svein ne la connaît pas.
Il ignorait encore.
Parce que là, voilà le point génial de Rossellini, c'est qu'il dit, si moi je veux parler aux gens aujourd'hui avec un film contemporain, plus personne n'ignore la psychanalyse. Donc, il en fait une bonne femme responsable et consciente de ce qu'elle fait.
Ou bien, n'est-ce pas, plus personne ne va croire qu'une femme qui trompe son mari a des angoisses à ce point?
Non, je crois également que c'est une situation aussi que le fait d'avoir situé cette femme seule, la guerre, tout ça et tout, allemande, important, c'est aussi... que dans la nouvelle, il y avait bien la guerre avec les Autrichiens, les Italiens et tout, mais c'est très secondaire, on n'en parle pas, et c'est un avocat. Un avocat, c'est un homme qui parle, c'est un homme qui dirige, c'est un homme dont la parole est faite avec le crime, c'est un homme qui fonctionne sur le crime. Elle raconte dans la nouvelle, Irène, qu'elle l'a vu plaider et qu'elle a très très peur de ses méthodes et tout ça et tout, alors que là, lui, c'est apparemment un doux. Bon, et Rossellini, lui, a toujours des comptes à régler avec Bergman, quelque part. Il raconte un peu sa vie, ses problèmes de scène de ménage. Puis il est la Magnani avant. Donc la femme, pour lui, c'est quelque chose avec un combat. C'est des femmes fortes qui l'intéressent. Et si bien que peu à peu, dans le film, arrivent des choses qui sont complètement géniales, parce que on regrette même qu'on ne pouvait pas, à l'époque, distribuer la nouvelle aux gens de la lire avant comme un livret d'opéra ou comme un truc. Parce que dans la nouvelle, cette femme, il y a la servante, il y a les enfants qu'elle ne comprend pas, il y a l'histoire du cheval qui a été cassé par l'autre enfant, elle ne veut pas s'en occuper. Et là, il y a cette scène géniale, je parle de la version originale et complète du film, où ils vont à la campagne, à la pêche, où ils parlent à leurs enfants, où c'est vraiment un couple qui a l'air heureux. C'est une scène qui a l'air de ces moments heureux chez Ingmar Bergman, ce qui est extrêmement rare, donc il y a toute la magie qui est dedans. Et que cette espèce de folie d'être surprise et tout, n'est pas du tout une surprise, disons, oh mon Dieu, j'ai trompé mon mari, c'est cette femme m'embête d'abord, demande de l'argent, et peu à peu, elle arrive à avoir, contrairement à la nouvelle, ou ce qui n'est pas dit dans la nouvelle, un plaisir dans ce malheur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de masochisme. Et ça, Rossellini l'a senti en substance dans Zweig, mais pas dit dans Zweig, et lui le met. Et où il va encore plus loin, et ça c'est absolument fou, c'est qu'il dévoile la solution aux deux tiers du film, et non pas à la fin, comme dans C'est-à-dire que c'est une comédienne, c'est quelqu'un qui est payé par le mari pour la faire souffrir, pour qu'elle se débarrasse de son amant.
Vado a fumare una sigaretta.
Va bene.
Vuoi che ti porti qualcosa?
No, no, grazie. Buonasera.
Bonsoir.
L'ho vista e sono venuta su.
Je vous ai vu, je suis montée.
Cosa vuoi? Sono venuta qui per salutarla.
Je veux seulement vous saluer.
A proposito.
A propos, che vous a dit Enrico?
Vada.
Partez.
Andiamo, non
Voyons, ne soyez pas comme ça.
Ce ne vada, le ho detto.
Partez, vous ai-je dit.
Che non ha parlato.
Ne lui avez-vous pas parlé?
Ah, la prego.
Laissez-moi non tranquille.
Sa che sta bene.
Est-ce que vous êtes élégante?
Et, il mio vestito, le piace?
Et ma robe, elle vous plaît? Je l'ai achetée aujourd'hui.
Oh, che splendida spilla. Oh,
vous avez une broche splendide.
Et, bel anello.
Et quelle bague, je peux la voir?
Non, non,
rendez-la-moi.
Mica.
Que croyez-vous? Je ne veux pas la manger. J'aurais dû demander au moins le double. Rendez-la-moi. Soyez tranquille, je ne ferai que la porter. Il me semble que cette demoiselle a peur de moi. Chaque fois que j'arrive, elle part. Tu aurais voulu la rencontrer? Pourquoi pas, elle est jolie.
Alors là sont arrivées les catastrophes. Quand le film a été fini, Rossellini a été jusqu'au bout. Plus loin même dans la violence et dans le réalisme, dans la cruauté que Zweig, vu que la séquence où elle veut se suicider, il y a ces scènes avec les animaux qui eux sont tués pour être expérimentés pour des vaccins et tout, elle tombe dessus et tout.
Oui, il y a aussi, bon. Je le dis en passant, mais qui est magnifique, la métaphore sur les effets du curare, de la progression du curare,
oui,
sur
au début du film,
sur le cœur, lorsque le mari, alors en laboratoire, est devant sa femme,
le cardiogramme, oui.
Magnifiquement joué par Ingrid Bergman, qui écoute tout cela, explique comment justement l'expérience va aller jusqu'au bout. Et puis il y a l'autre question où à la cantine, lorsqu'on reparle encore des résultat du laboratoire, demande, et est-ce que l'animal souffre?
Oui,
car elle se prépare au suicide.
Oui, c'est un abus humaniste, son mari. Oui. C'est quelqu'un qui joue avec la mort des autres. Donc, en fait, lorsqu'on apprend justement, vous faites bien de le rappeler, quand on apprend qu'il joue avec elle comme ça, que c'est le metteur en scène, quelque part, donc c'est Rossellini, quelque part, on comprend brusquement pourquoi il y a eu toutes ces scènes avant. Et alors, donc, dans le film, le metteur en scène garde les choses en main, récupère sa femme, l'empêchant de se suicider, la récupère totalement, c'est une sorte de happy end, si on veut, inversé, vu de l'autre rive. Alors que dans la nouvelle, bon, c'est beaucoup plus dramatique que ça, et elle se suicide pas, enfin, c'est vraiment, elle est en prison totalement à vie. Et alors, quand le film est sorti en Allemagne, dans cette version-là, complètement, les Allemands ont aimé, parce que ça rejoint complètement l'univers allemand, l'univers austro-allemand, la germanité, si vous voulez, la psychanalyse, tout le côté mittel-européen, enfin, tout ce que Zweig avait mis dedans, et ils ont retrouvé Zweig complètement, eux. Pas les Italiens. Et les Italiens ont dit, non, ça va pas, ça c'est pas du mélodrame, alors on va changer ça. Ils ont changé le titre, disant, je ne veux plus être amoureuse,
je ne crois plus
en l'amour. Ils ont enlevé la séquence très importante de la pêche avec les enfants et tout. On voyait quel couple c'était et on voyait le drame sous l'espèce de paix apparente. La fin, ils ont complètement tout changé. Elle se suicide plus, mais ils ont repris des morceaux de plans comme ça et tout pour faire qu'elle revienne à la campagne, repère ses enfants et quitter son mari. Mais alors, là, on touche le problème qui nous intéresse ici, l'adaptation. C'est que Rossini a eu l'intelligence, parce que c'est un des cinéastes les plus géniaux de son temps, lui de dire, bon, je vais pas m'occuper des voix off. J'ai une musique que je mets, j'ai Bergman qui dans son regard, dans un geste, dans la manière de toucher sa main, ou de faire un léger petit cri, ou de parler différemment, la version allemande, où Bergman joue son rôle, il y a des nuances dans la voix qui sont tout à fait passionnantes et extraordinaires, bon, suffit, j'ai pas besoin de faire ça et tout, et en effet, on a vraiment quelque chose qu'Esweig, revu maintenant, avec un grand metteur en scène qui s'y met dedans, fidélité totale. Et alors en Italie, on dit, non, ça va pas, il faut rajouter une voix off. Et il rajoute une voix off. Et si bien que ça fout tout en l'air, parce que c'est Bergman qui raconte son histoire et tout ça et tout, et ça devient un mélo de photoromans ratés, un bide extraordinaire dont Rossini ne se remettra jamais.
C'est étrange, comme parfois dans notre existence, les objets familiers prennent tout à coup une lueur de vie et deviennent les témoins de notre douleur. Je caressais ces objets, compagnons de travail, que j'avais choisi moi-même et aimé. Et que maintenant j'avais décidé d'abandonner. Winterval 307. Ici, le numéro est 20-33-40. Merci. Alberto, je te pardonne le mal que tu m'as fait. Et toi, pardonne-moi celui que je t'ai fait. Adieu.
Marta,
c'est moi. Excuse-moi de te réveiller à une heure pareille. Je voulais savoir comment allaient les enfants. Qu'ont-ils fait aujourd'hui? Écoute, demain matin, quand ils se réveilleront, embrasse-les très fort pour moi. Et dis-leur que maman les aime beaucoup.
Non,
je n'ai rien. Vraiment rien. Je dois partir. Et pour très longtemps.
Marta. Mi senti bene?
Tu m'entends bien?
Vicino ai bambini. Come sei?
Reste auprès des enfants. Comme tu l'as toujours fait avec moi.
Addio.
Adieu.
Les écrans de Stefan Zweig, une émission de Dominique Rousset, avec Étienne Perrier, Édouard Molinaro, Joël Farge, Yves Builly, Noël Simsolo et Fanny Ardan, Catherine Rich. Archive INA, Société Projet Phi, texte dit par Christine Bruchère, mixage Geneviève Nguyen, Philippe Palares, Johan-Richard Dufour, Jean-Pierre Juncker, réalisation Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 octobre 1993. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.